La manufacture RH vous présente 13e mois.
Ce sens dont aujourd'hui on parle tellement sur le marché du travail, la quête de sens, les jeunes générations, qui est un sujet dont on débat abondamment sur les gens sont en recherche de sens, jeunes générations ou moins jeunes générations d'ailleurs, dans nos activités, dans l'environnement, je crois que tout le monde a un sens extrêmement fort de la mission qu'il remplit et de à quoi sert ce qu'il fait au quotidien. L'innovation sociale, en tout cas dans le sens qu'on lui donne chez Suez, c'est une recherche d'impact de nos activités qui va au-delà de la stricte activité ou du strict service qu'on rend pour avoir un impact positif environnemental et social, parce que les deux notions sont quand même relativement liées, sur l'ensemble des communautés et des parties prenantes qui ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise, mais qui dépassent les frontières de l'entreprise pour que nos actions aient un impact social, environnemental, sur des populations au-delà de nos salariés, dans les collectivités, les territoires dans lesquels on travaille.
Papa, c'est vrai que tu licencies des gens ?
Ça, c'est tout simplement la question que ma fille m'a posée un matin sur le chemin de l'école alors que j'étais DRH. Bon, je lui ai évidemment expliqué que mon métier allait bien au-delà des licenciements, que c'était l'art de construire des équipes exceptionnelles, de développer des talents et de cultiver le leadership en entreprise. Mais ça m'a confronté une fois de plus à la mauvaise réputation de mon métier. Depuis, j'ai donc œuvré à faire briller la fonction RH pour aider les DRH à bâtir des équipes qui reflètent leur vision et à développer leur propre leadership. Je suis Flaubert, le fondateur de la Manufacture RH, le spécialiste du recrutement et du coaching des fonctions RH. Et je suis ravi de vous accueillir dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Grâce à des interviews de DRH inspirants, des conseils concrets et des chroniques d'actualité, vous aurez toutes les clés pour comprendre les tendances et innover. Allez, laissez-vous inspirer et venez intégrer notre communauté RH pleine d'énergie. Bonjour Laurent Guillaume.
Bonjour Flaubert.
Bienvenue dans 13e mois, le podcast qui décrypte l'excellence RH. Alors j'ai l'habitude de recevoir à ce micro des pros des ressources humaines, mais aujourd'hui nous allons parler ressources au carré. En effet, Laurent Guillaume, vous êtes le DRH de Suez, le groupe français qui prend soin d'une ressource vitale comme l'eau et qui crée des ressources en valorisant nos déchets. En tant que DRH, vous vous concentrez évidemment sur les ressources humaines du groupe Suez, mais dans votre démarche, il y a une vraie synergie entre les ressources naturelles et les ressources humaines, avec une volonté d'instaurer un équilibre entre la performance économique et le progrès social. Dans cet épisode, nous allons parler innovation sociale, car dans vos gènes, il y a cette volonté que chaque initiative vise à renforcer le lien entre le bien-être des employés et la santé de notre planète. Et cette innovation sociale se traduit par des pratiques RH qui reflètent l'engagement environnemental du groupe Suez. Nous allons donc plonger dans l'univers où l'humain rencontre l'écologie, où les stratégies RH ne sont pas seulement des processus, mais des histoires de personnes, d'innovation et d'impact social. Je suis vraiment très heureux à l'idée de parler de tout ça avec vous et de votre approche avant-gardiste de l'innovation sociale. Mais avant cela, qui êtes-vous, Laurent Guillaume Guérin ?
Eh bien, je suis Laurent Guillaume Guérin, j'ai 52 ans, je suis le papa d'un garçon de 14 ans, bientôt 15, et je suis depuis un peu plus d'une quinzaine d'années dans le domaine des ressources humaines. J'ai eu une vie professionnelle préalable dans le domaine de la finance d'entreprise, dans des entreprises industrielles. Et il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, j'ai découvert le métier des ressources humaines à travers différentes expériences dans l'industrie. D'abord chez ArcelorMittal dans la sidérurgie, puis au sein du groupe Suez, où je suis arrivé il y a une dizaine d'années pour prendre la direction des ressources humaines, d'abord des activités eau en France, l'ex-Lyonnaise des eaux. Puis je me suis occupé de l'ensemble de nos activités en France, eau et déchets, avant de devenir, il y a un peu plus, presque deux ans maintenant, le DRH du groupe Suez. Voilà, et c'est un métier que je pratique avec passion et que j'adore depuis plus de 15 ans maintenant et qui me passionne tous les jours dans sa capacité, notamment à créer des équilibres entre l'économie, l'écologie, le bien-être des salariés, le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement d'un collectif au sein d'une entreprise. Et je suis par ailleurs quelqu'un passionné par l'art, par la littérature, par la culture et par les voyages. Donc j'oublie mes activités d'entreprise et de ressources humaines en voyageant et en me plongeant dans l'art et dans les spectacles, le spectacle vivant, le théâtre, l'opéra notamment, à mes heures perdues. Voilà.
Eh ben merci pour cette présentation. Et puis, on voit bien qu'au-delà du professionnel, il y a une personne avec des passions. Et ça, c'est très important. Alors, je promets à mes auditrices et auditeurs que je ne fais pas exprès, mais je pense que la très grande majorité des DRH que j'ai reçus jusqu'à maintenant, on est là au 32e épisode, n'ont pas commencé leur carrière dans les ressources humaines. Vous en êtes encore une preuve vivante. Donc, à celles et ceux qui disent « Comment on fait pour devenir DRH ?» Eh ben, il y a plein de voies pour devenir DRH. On est d'accord ?
Ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a plusieurs voies pour arriver aux ressources humaines. L'important, c'est d'y arriver avec envie, avec passion. Moi, j'étais dans la finance. J'adorais mon métier de financier. Mais je trouvais, au bout de quelques années, ayant commencé ma carrière dans ce métier, que l'ensemble de mes, peut-être, qualités ou goûts personnels ne se développaient pas complètement dans ce métier. Et puis, j'avais tourné autour de ce métier pendant un moment. Et puis, voilà, j'y suis arrivé parce que c'est ce que j'avais envie de faire, parce que j'avais envie de me rapprocher de quelque chose qui intégrait le facteur humain dans l'entreprise, qui travaillait avec plus directement l'ensemble des salariés, des ressources de l'entreprise ou de son écosystème. Voilà, donc il y a plusieurs façons d'y arriver, je crois. La seule et unique façon d'y arriver, c'est par goût, par envie et par passion, je crois.
Et vous avez ressenti le besoin de faire une formation dans les RH en parallèle ou alors non ?
Non, alors j'ai pas ressenti le besoin de faire une formation. Ça m'aurait peut-être été utile à certains moments. Lors de mon premier poste opérationnel, quand on m'a envoyé, c'était ArcelorMittal, c'était dans la sidérurgie, j'étais dans la finance, je suis occupé d'abord de postes au niveau du groupe, ensuite au niveau européen dans les relations sociales. La première fois qu'on m'a envoyé comme DRH opérationnel, c'était des usines dans l'Est de la France, j'ai quand même essayé de rattraper mes lacunes, notamment en droit, en faisant beaucoup de bachotage le soir sur le code du travail, sur le fonctionnement de notre administration, le fonctionnement de la paye ou des sujets comme ça. Mais j'ai pas vraiment fait de formation, j'ai plutôt appris ensuite sur le tas en ayant des postes opérationnels et en me documentant quand même beaucoup pour acquérir la base méthodologique qui me manquait, notamment juridique.
Ok. Alors c'est quoi votre vision aujourd'hui de la fonction de DRH, votre définition, si tant est que vous en ayez une et qu'il en existe une, mais comment vous voyez la fonction de DRH ?
Alors, je ne sais pas s'il en existe une, mais j'ai une vision de cette fonction-là qui est la femme ou l'homme de l'équilibre dans l'entreprise. Nous avons, je crois, un métier qui est au cœur du fonctionnement de l'entreprise et qui vise à trouver un certain nombre d'équilibres. Quand je dis équilibre, je crois que dans les ressources humaines, se sont côtoyées plusieurs visions. À un moment, on avait il y a quelques décennies, les chefs du personnel qui étaient là pour faire respecter le règlement ou pour avoir des processus disciplinaires. Et puis le métier s'est progressivement, je pense, transformé en un métier de gestion de ressources, d'avenir, de bien-être des salariés, mais qui est toujours placé au centre d'objectifs économiques, de contraintes économiques qui est liée à l'entreprise. Et je crois que le métier des ressources humaines, c'est avant tout de trouver des équilibres. C'est trouver des équilibres pour que les salariés puissent tirer bénéfice de la croissance de l'entreprise, mais aussi que le fonctionnement de l'entreprise collectif respecte un certain nombre de règles de fonctionnement, qu'on soit organisé pour être plus efficace, et que entre le fait de faire du profit, qui n'est pas un mot tabou dans nos organisations, mais aussi permettre le développement des personnes, on est souvent là pour trouver des points d'équilibre. D'ailleurs, une partie de notre travail, c'est faire de la négociation, négocier avec les partenaires sociaux des accords. On essaye en tout cas que ces accords soient gagnants-gagnants. Et je crois que là aussi, on est en permanence en train de chercher des équilibres entre les moyens dont on dispose et la satisfaction des besoins ou des demandes qui nous sont faites. Donc voilà. Et j'ai alors peut-être une autre définition. Dans mon comité de direction récemment, un de mes collègues au comité de direction disait le DRH finalement c'est le mécanicien de l'entreprise. On essaie de faire en sorte que les rouages tournent, ça fonctionne, que l'organisation produise les effets qu'elle doit produire, et puis souvent on met quand même beaucoup d'huile dans les rouages pour que ça se passe bien, pour éteindre des conflits, pour expliquer les choses aux gens, pour aussi faire comprendre que à toutes les parties prenantes qu'il faut prendre en compte les contraintes des autres. Et donc je trouve que c'est assez vrai comme définition, et ce sont des métiers qui sont à la fois passionnants, mais de ce fait-là, trouver l'équilibre c'est souvent compliqué, donc ce sont des métiers qui sont passionnants, mais qui sont aussi assez, assez intenses.
C'est marrant parce que on s'est rencontrés parce que c'est Rémi Boyer qui nous a mis en contact et qui a participé à ce podcast. Et il parlait déjà de cette notion d'équilibre. Je me rappelle, je crois qu'il y avait aussi un peu de diplomatie et de choses comme ça derrière dans ce qu'il disait. On retrouve tout ça dans ce que vous dites.
Oui, tout à fait. Alors, je connais bien Rémi puisqu'on a travaillé ensemble dans la sidérurgie. Donc, je crois qu'on a une vision du métier qui doit probablement être assez proche et de ce que suppose cette recherche d'équilibre. Je crois que pour qu'on ait une organisation qui fonctionne bien, il faut que chacun puisse se sentir dans une situation d'équilibre, c'est-à-dire entre droits, devoirs, responsabilités, ce qu'il tire de son travail et de son investissement, la façon dont il est traité, et puis aussi l'ensemble des contraintes qui pèsent dans une organisation pour la développer. Je crois que ça, ce sont effectivement des points qui sont totalement incontournables pour qu'une organisation fonctionne. Il faut qu'un certain nombre de personnes s'assurent qu'elle fonctionne avec de l'équilibre.
Petite question par rapport à ce que vous avez dit juste avant et à votre ancienne vie. Qu'est-ce que vous utilisez comme ressources, comme compétences, comme qualités que vous avez apprises dans votre ancienne vie, dans la finance, dans les RH maintenant aujourd'hui?
Alors, ce qui me sert dans la finance beaucoup, c'est la compréhension du fonctionnement économique de l'entreprise, une facilité à comprendre les chiffres, à interpréter les chiffres et les analyser, puisque on agit dans un cadre où l'économie est évidemment extrêmement présente. On agit et on dispose de moyens bien liés à la capacité économique de l'entreprise à se développer, à faire du profit, à investir. Donc ça, c'est extrêmement utile parce que c'est important de l'expliquer, c'est important de le comprendre, c'est important de savoir où sont les grands enjeux et les grandes masses dans l'entreprise. Donc la capacité d'analyse et de décryptage de l'économie, c'est important. Une forme de pédagogie aussi. Dans la finance, on apprend souvent à faire de la pédagogie sur les chiffres pour expliquer les grandes décisions à partir de chiffres. Même si les chiffres ne sont pas tout, je pense qu'un DRH a besoin de faire de la pédagogie aussi, pour expliquer qu'il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses qui ne sont pas possibles, il y a des choses qui sont contraintes. Et ça, la pédagogie, le fait d'avoir la capacité à décrypter les chiffres, je pense que c'est important.
Il fut un temps où les DRH n'avaient pas les chiffres. Ce temps est-il révolu? Alors, je ne parle pas pour vous, parce que vous avez baigné dedans, mais dans ce que vous constatez autour de vous, de vos confrères, est-ce qu'il y a encore un peu cette réticence sur les chiffres? Ou alors, est-ce que vous dites, non, aujourd'hui, les DRH, c'est bon, les chiffres, ils y vont?
Je crois que la plupart des DRH, ouais, aujourd'hui, les chiffres, ils y vont, contraints, forcés, par goût, mais en tout cas, c'est indispensable. Aujourd'hui, je crois que tout le monde a cette conscience ou cette capacité à intégrer à travers des chiffres, à travers des éléments économiques, ou pas d'ailleurs, parce que quand on parle de chiffres aujourd'hui, il y a beaucoup d'indicateurs extra-financiers qui se développent. Ce sont des chiffres, mais c'est pas forcément de la finance. Je crois que tous les DRH aujourd'hui sont obligés un petit peu d'intégrer cette dimension-là dans leur métier.
Ok. Alors, j'ai parlé un peu de Suez dans mon introduction, mais allez, faisons un focus sur Suez. C'est un nom que tout le monde connaît, qui fait partie de l'histoire des Français, on va dire.
Oui.
Mais vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi? C'est combien? C'est qui?
Alors, Suez, c'est une entreprise qui a 160 ans d'existence.
D'accord.
Donc, effectivement, issue à l'origine très lointaine d'une aventure entrepreneuriale française avec le canal, puis ensuite qui a eu différentes activités. Donc, on a toujours un lien direct avec cette histoire-là et qui, depuis 160 ans, œuvre à développer des services à l'environnement, d'abord en France et ensuite dans le monde entier. Services à l'environnement, c'est la gestion de l'eau, la production d'eau potable ou la gestion des eaux usées, la collecte et la gestion des eaux usées, mais aussi le déchet avec le recyclage, la collecte, la valorisation des déchets et puis la construction d'installations, que ce soit des stations d'épuration, des stations d'eau potable qui permettent ces traitements. Donc ça fait 160 ans que Suez œuvre d'abord en France et ensuite dans le monde entier. Aujourd'hui, Suez, c'est 40 000 personnes, 24 000 personnes en France, 40 pays dans lesquels on opère, en Asie, en Afrique, en Australie, sur nos métiers, qui sont donc la gestion de l'eau et la gestion des déchets, la construction d'installations. Et c'est une entreprise qui a connu une histoire nouvelle, puisqu'elle a 160 ans d'histoire, et puis 2 ans d'une histoire nouvelle, puisqu'elle a changé de gouvernance il y a 2 ans, à la suite notre grand concurrent, qui est aussi une entreprise française, Veolia, qui s'est développée aussi en parallèle sur ces métiers. Il faut noter que les deux grands champions mondiaux de l'environnement, ce sont aussi 2 entreprises françaises. On dit que souvent c'est le cas dans le luxe ou dans d'autres activités. Dans le domaine de l'environnement, les 2 sociétés capables de créer ou de rendre l'ensemble des services environnementaux dans le monde sont des sociétés françaises à l'origine. Donc Veolia a acquis une partie des activités de Suez, et Suez, en 2022, est reparti avec de nouveaux actionnaires, un nouveau projet, et donc avec une entreprise qui fait aujourd'hui 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 40 000 personnes et 40 pays.
J'y pensais quand vous nous expliquiez l'Australie, etc. C'est vrai, quoi. Il n'y a pas... Alors, le savoir-faire français, en effet, on parle beaucoup du luxe qui s'exporte, Mais là aussi, le savoir-faire français s'est exporté et continue de s'exporter parce que les grands champions sont français en la matière, c'est ça ?
Exactement, exactement. Les grands champions, les grandes entreprises françaises qui savent à la fois gérer de l'eau à l'échelle d'une ville, voire à l'échelle d'un pays, qui savent construire des stations d'épuration, qui savent construire des usines de dessalement d'eau de mer, qui sont aujourd'hui très utilisées dans un certain nombre de parties du monde qui manquent beaucoup de ressources en eau, mais qui sont aussi capables de collecter des déchets, de les valoriser à travers l'incinération, d'offrir différentes solutions de recyclage. Recyclage assez traditionnel comme le verre ou plutôt des nouvelles matières, le plastique, demain les batteries ou d'autres activités sont effectivement beaucoup issues de l'innovation et des savoir-faire français qui progressivement sont développés dans le monde entier.
Ça veut dire que ça, en matière de recrutement et d'attractivité, voilà, j'ai envie de donner un sens, entre guillemets, à ce que je fais au quotidien. Quand je travaille chez Suez, alors on me le rappelle ou je l'ai naturellement, ce côté « ok, je sers à quelque chose pour l'environnement, pour la planète ».
Alors, je crois qu'on peut le rappeler à travers différentes politiques d'entreprise, à travers différentes communications d'entreprise, mais intrinsèquement, les gens qui nous rejoignent et les gens qui sont là depuis longtemps et qui restent dans l'entreprise le savent. Par rapport à beaucoup d'autres entreprises, on a évidemment, comme toutes les entreprises, des difficultés liées au fonctionnement des entreprises, comme tout le monde. Mais il y en a une qu'on n'a pas, c'est la quête de sens, ou en tout cas la recherche de sens. Tous nos salariés savent que au bout du bout, leur activité a un certain nombre d'applications extrêmement concrètes, qui est d'apporter de l'eau à des populations, des familles, des villages, des industries, ou gérer des déchets, et donc que de cette façon-là, ils contribuent à l'hygiène, à la santé, au développement de la vie. Et donc ça, c'est quelque chose que nos salariés ont intrinsèquement, évidemment, en tête dans toutes les actions qu'ils mènent. Et c'est quelque chose qui, ce sens, dont aujourd'hui on parle tellement sur le marché du travail, la quête de sens, les jeunes générations, qui est un sujet dont on débat abondamment sur les gens sont en recherche de sens, jeunes générations ou moins jeunes générations d'ailleurs, dans nos activités, dans l'environnement, je crois que tout le monde a un sens extrêmement fort de la mission qu'il remplit et de à quoi sert ce qu'il fait au quotidien.
Alors ça, c'est un vrai plus, hein. Moi, je fais du recrutement au quotidien et je vois en termes d'engagement et de sens, quand on a ces éléments-là, c'est vrai que sur le marché aujourd'hui, ça donne quand même un coup d'avance et c'est très important.
Tout à fait. Surtout
sur ces sujets d'environnement, ces sujets sociétaux, etc. C'est vrai que ça importe beaucoup. Alors, on a décidé dans cet épisode, vous et moi, qu'on allait parler innovation sociale. Oui. Innovation sociale et ressources humaines. J'adore ce sujet. On peut commencer par votre définition, justement, de l'innovation sociale. Comment vous voyez une définition de l'innovation sociale ?
Alors, l'innovation sociale, en tout cas dans le sens qu'on lui donne chez Suez, c'est une recherche d'impact de nos activités qui va au-delà de la stricte activité ou du strict service qu'on rend pour avoir un impact positif environnemental et social, parce que les deux notions sont quand même relativement liées, et sur l'ensemble des communautés et des parties prenantes qui ne s'arrêtent pas aux frontières de l'entreprise, mais qui dépassent les frontières de l'entreprise pour que nos actions aient un impact social, environnemental, sur des populations au-delà de nos salariés, dans les collectivités, les territoires dans lesquels on travaille. Voilà, je dis social et environnemental parce que notre innovation sociale, elle est au service du métier qu'on fait, c'est-à-dire ce sont des services à l'environnement. Et je trouve qu'elle fait assez bien écho avec beaucoup de débats de société qui existent en ce moment, à savoir que la transition écologique, le nouveau modèle écologique, ne peut s'installer dans la durée que s'il prend en compte une dimension sociale et un impact social, c'est-à-dire qu'il a un impact positif sur l'ensemble des communautés dans lesquelles il s'exerce. Donc voilà, nous on a cette définition de là d'innovation sociale, donc j'ai une direction de l'innovation sociale au sein de la DRH de Suez. Et sa vocation, c'est d'aller justement mettre de l'impact positif à nos actions au-delà du strict cadre de l'entreprise ou d'un contrat, par exemple.
Alors déjà, ce qu'on comprend, c'est l'innovation sociale, elle est liée à la direction des ressources humaines. Elle est sous l'initiative ou en tout cas l'impact du DRH.
Elle est sous l'impact du DRH, effectivement. Il y a une direction de l'innovation sociale qui est directement placée sous la direction du DRH et qui agit et qui a été créée. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai créée, elle a été créée déjà par mes prédécesseurs. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que Suez a créé une direction de l'innovation sociale. C'est pour ça que vous parliez de pionniers ou d'avance. Probablement qu'on a pris un temps d'avance sur ces sujets il y a une vingtaine d'années maintenant et elle est logée là. Elle travaille avec l'ensemble des directions de l'entreprise, mais elle est logée là parce qu'elle fait bien partie et parce qu'elle fonctionne extrêmement bien avec les autres parties de la DRH. C'est-à-dire qu'elle va irriguer que ce soit des processus de recrutement, des processus d'engagement de nos collaborateurs, des processus sociaux, des processus également commerciaux avec d'autres départements de l'entreprise. Mais elle est placée là pour irriguer l'ensemble des services de l'entreprise.
Alors, il va falloir qu'on prenne un ou des exemples pour que ça parle. Comme ça, allez, est-ce que vous avez un exemple, une initiative marquante, un sujet, on en a parlé pas mal quand on a préparé cet épisode, mais allez-y.
Un exemple récent qui, je trouve, réconcilie bien l'aspect social, l'aspect business et l'aspect de responsabilité au-delà des frontières de l'entreprise quelque part. Probablement les initiatives qu'on a menées au cours de ces dernières années avec l'intégration de réfugiés. On s'est beaucoup impliqué à travers 3 projets successifs d'intégration de réfugiés. Donc on a pris durant ces trois années des promos à chaque fois d'une quinzaine de personnes qui étaient des réfugiés. Des gens issus d'Afrique de l'Ouest, issus d'Afghanistan, qui étaient arrivés en France dans des situations personnelles, humanitaires assez difficiles, et qu'on a intégrés dans l'entreprise, dans le cadre de, il y a eu des projets gouvernementaux assez importants sur l'intégration des réfugiés, et qu'on a intégrés en faisant concilier le fait d'aller chercher des gens très éloignés de l'emploi, des réfugiés qui arrivent de très loin, qui sont dans une situation difficile en France, qui parlent pas français, qui ont pas de logement, qui ont pas de permis de conduire, qui parfois ne sont pas avec leur famille, avec les métiers en tension de l'entreprise. Donc, on a fait plusieurs promotions avec d'abord des chauffeurs poids lourds. C'est un métier en tension, les chauffeurs poids lourds. On a du mal à trouver des chauffeurs poids lourds pour conduire des camions parce qu'il y a une espèce d'explosion du fret, notamment ferroviaire. Donc, on a du mal à trouver des chauffeurs poids lourds. Donc, on avait du mal à en trouver dans l'entreprise. On a par les filières classiques. Et donc, on a recruté des gens qui avaient des expériences, des chauffeurs de taxi, des chauffeurs poids lourds en Afghanistan, au Kenya ou dans d'autres pays africains et qui sont venus nous rejoindre à travers des parcours de professionnalisation. On vient de le faire avec une promotion de mécanicien poids lourd. Mécanicien poids lourd, on a beaucoup d'engins roulants chez Suez, notamment dans en matière de déchets. Nous avons évidemment des camions qui circulent sur la voie publique au quotidien. Donc on a beaucoup aussi de besoins de maintenance interne. Les métiers de mécanicien poids lourd sont des métiers sur lesquels on a du mal à remplir les filières de professionnalisation. Il y a moins de candidats. Donc on a pris là aussi une promotion de gens qui avaient un peu bricolé dans des garages, dans des conditions un peu plus artisanales, on va dire, dans leur pays d'origine, qu'on a remis dans des CFA pour passer des certifications professionnelles, qu'on a accompagné avec tout un écosystème de partenaires pour avoir évidemment des permis de séjour, pour avoir des logements et pour ensuite occuper et intégrer nos équipes de maintenance en mécanique poids lourd, la mécanique et les diplômes de mécanicien pour intervenir sur nos installations et donc s'intégrer de façon durable alors qu'ils étaient extrêmement loin de l'emploi. Et c'est là que je dis qu'il y a un lien avec les ressources humaines, parce que quelque part, intégrer des réfugiés, évidemment, ça participe d'une action collective qui permet d'avoir quasiment humanitaire, qui permet d'amener des gens loin de l'emploi à une vie stable en France. Certains peuvent ensuite, une fois ayant obtenu un CDI, faire venir leur famille, s'installer dans un emploi, s'installer durablement dans un emploi dans notre pays. Mais à côté de ça, répondre à un besoin de l'entreprise, un besoin de recrutement des ressources humaines, qui est d'aller recruter sur des métiers en tension, dont l'attractivité est faible et pour lequel on ne trouve pas les bons profils.
Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'est qu'une entreprise comme Suez, française, 160 ans, qui travaille sur des choses, l'écologie, l'environnement, etc., elle va donc plus loin en se disant, OK, comment on peut, à travers nos actions, le milieu associatif, impacter positivement et dans notre business, parce que on l'a dit tout à l'heure, mais le DRH, il est là pour l'équilibre, et évidemment, et il faut qu'il y ait du business, il faut que l'activité, elle y trouve son compte. Impacter notre business et puis utiliser, faire des choses qui sont positive pour des personnes qui arrivent en France ou qui sont peut-être même pas encore arrivées en France, mais qu'on va aller chercher via le milieu associatif pour les former, leur donner un métier, un vrai métier, parce que chauffeur poids lourd, c'est un vrai métier. Mécanicien, c'est un vrai métier. Ce que je trouve génial aussi, c'est d'aller chercher des personnes qui ont, vous le disiez un peu, bricolé de manière un peu roots dans leur pays, et là, vous leur donnez une formation. Enfin,
exactement.
C'est exceptionnel.
Exactement. Exactement, et c'est là qu'on retrouve notre notion d'équilibre, puisque cet équilibre, il vient du fait qu'on a des personnes éloignées de l'emploi, qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer, qui veulent de façon durable occuper un emploi, et à côté de ça, l'entreprise ne peut les intégrer que durablement que sur des emplois qui existent. On peut pas.
Bien sûr.
On peut pas économiquement créer des emplois de toutes pièces. Mais par contre, l'entreprise, elle y trouve évidemment son compte sur des emplois où nous avons besoin d'avoir des ressources pour occuper ces emplois. Et puis, puis ça se passe formidablement bien parce que ce sont des expériences où les gens ont vraiment envie de s'intégrer, ont vraiment envie de travailler. Et nous avons la chance, je dis que c'est une chance, chez Suez d'avoir des métiers aussi bien très qualifiés que non qualifiés. Oui. Et d'avoir à l'intérieur de tous les métiers une représentation, y compris en France, de beaucoup de cultures différentes, de beaucoup d'origines différentes. Si vous avez, c'est pas un, comment dire, c'est assez intuitif quand vous avez des activités de collecte. La collecte sont les camions poubelles que vous voyez en bas de chez vous avec des gens qui soulèvent des bacs. Vous avez des contrats sur la région parisienne où se côtoient des gens d'origines extrêmement différentes, d'origines étrangères, de pays différents. Et donc, on a une assez bonne capacité à intégrer des gens qui viennent d'Afghanistan, d'Afrique australe ou d'autres pays. Ce qui rassemble les gens, c'est la volonté de travailler et la volonté d'occuper un emploi de façon durable. Mais on a une bonne capacité culturellement à travailler avec des gens très différents. Donc ça nous le permet de le faire. Et c'est peut-être quelque chose d'autre qu'on pourrait illustrer sur l'innovation sociale. On a aussi, depuis 20 ans, nous sommes un acteur de l'insertion en France. On a une filiale d'insertion, une vraie filiale d'insertion, une société qui s'appelle Suez Rebond, qui a une vingtaine d'années d'existence, qui est une vraie boîte d'insertion, qui a employé plus de 10 000 personnes depuis 20 ans. On emploie, là, ces dernières années, à peu près 700 par an. Et ça nous permet là aussi d'intégrer des gens très éloignés de l'emploi, alors pas des réfugiés, des gens qui sont sur le territoire français, qui sont à 30% issus du RSA, qui sont parfois des gens, des familles monoparentales, des gens qui sont très éloignés de l'emploi parce qu'ils sont peu qualifiés. Et à travers cette boîte d'insertion, on arrive à les intégrer aussi, et c'est pour ça que je dis qu'on a la chance d'avoir tous les métiers chez Suez. On a des métiers notamment dans des centres de tri, on a des métiers dans les activités de déchets de collecte qui sont des métiers peu qualifiés et qui permettent de remettre le pied à l'étrier de l'emploi de gens qui parfois parlent pas bien français ou ont une éducation de base très faible. Hein, dans l'insertion, je crois qu'on doit avoir 70% des gens qui sont à un niveau en dessous du CAP, donc c'est compliqué d'accéder à l'emploi en France dans ce type d'activité. Et ça fait 20 ans qu'on a une société d'insertion qui nous permet d'avoir bien des gens qui rejoignent Suez, qui rejoignent nos activités, qui rejoignent les centres de tri, qui rejoignent les activités de collecte à travers ces activités. Et on est devenu un vrai acteur de l'insertion en France, puisqu'on a une société d'insertion et nos salariés, ils sortent des contrats d'insertion. Vous savez que la loi prévoit des contrats de 2 ans. Ils sortent avec un taux de sortie dynamique qui est tout à fait similaire à tous les professionnels de l'insertion. Et ça, ça fait 20 ans qu'on le fait.
C'est un peu comme cette société, c'est un peu comme un SAS. Oui. C'est, voilà, je me remets dans un circuit normal de travail, et puis bon, je vais le faire un certain temps, et après, je vais peut-être pouvoir aller prétendre à
exactement
autre chose.
Exactement, exactement. Okay. Et ça, c'est possible que si vous avez accès, dans un premier temps, à des métiers qui sont accessibles avec un niveau de qualification qui reste faible de base. C'est possible si vous avez l'accompagnement dans le retour à l'emploi. Ce qui est toujours important, c'est l'accompagnement socio-professionnel, c'est-à-dire que vous ayez des gens autour de vous, et c'est ce que permet une société d'insertion. Il y a un encadrement un peu plus élaboré qui ne peut être avec un management classique, parce que souvent, quand on a des gens éloignés de l'emploi, il faut s'occuper des problèmes d'emploi. Puis parfois, il y a des problèmes de la vie quotidienne qui viennent se mêler à l'emploi. C'est difficile d'accéder à l'emploi parce qu'on n'a pas de voiture, parce qu'on n'a pas de permis, parce qu'il y a des transports en commun ou pas, ou parce qu'on a des problèmes de logement, ou parce qu'on a des problèmes de papier. Donc c'est ça que permet l'insertion, c'est d'accompagner de façon particulière, de façon un peu renforcée et avec une attention particulière des gens vers l'emploi.
Ce que vous êtes en train de nous dire là, et que j'avais cette question en tête quand vous nous parliez des réfugiés, mais ça va au-delà du job, ça va au-delà du professionnel. Il y a un moment donné où vous allez aussi sur le personnel des gens,
ouais.
Il y a un vrai accompagnement quand même derrière.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pour, je dirais, ouvrir l'entreprise et les emplois de l'entreprise à des gens qui sont plus éloignés de l'emploi, il faut aller au-delà du job. Je vous donne un exemple tout simple. On a participé activement, il y a quelques années, on continue à le faire, au programme que le gouvernement avait lancé sur le PACTE, le plan d'action, alors je ne me souviens plus à vrai dire de l'acronyme, mais enfin, il était destiné à au quartier prioritaire de la ville. Mmh. Hein, vous savez qu'il y a dans chaque, enfin dans beaucoup de métropoles ou de communes en France, malheureusement, des quartiers prioritaires sur lesquels on a des gens qui se trouvent dans des situations sociales, notamment des jeunes, très 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 différentes de ce qu'on peut connaître par ailleurs et très déconnectés du marché de l'emploi auquel ils ont assez peu accès. Et on a lancé à l'époque quelque chose qui était l'alternance venue des quartiers prioritaires de la ville. On s'est engagé dans cette démarche en disant on veut 10% de nos alternants qui sont issus des quartiers prioritaires de la ville.
D'accord.
La première chose dont on s'est rendu compte après avoir pris l'engagement, c'est souvent le cas, c'est qu'on avait d'abord aucune idée de qui de nos alternants était issu des quartiers prioritaires de la ville. Mmh. Et deuxièmement, qu'on avait absolument aucune idée de comment aller capter des candidatures de gens issus des quartiers prioritaires de la ville. Et c'est là que je dis qu'on s'occupe au-delà du job aussi des personnes en tant que telles. On s'est rendu compte que nos offres d'emploi, les offres qu'on faisait passer dans les écoles, les propositions d'intégration en alternance, entreprise, formation, elles arrivaient jamais dans les quartiers prioritaires de la ville. Deux, quand elles y arrivaient, personne ne les comprenait. Parce que quand vous dites formation électromécanicien pour travailler sur tel truc, c'est des choses qui sont complètement inaperçu. Enfin, oui. Les gens ne les. Voilà, on touche pas à la population qu'on veut toucher. Et donc, on a travaillé avec un écosystème d'associations pour les aider, un, à transférer nos offres d'emploi de façon à ce qu'elles puissent être compréhensibles, que la plupart du temps, on fasse plutôt de la transmission orale ou des job dating, où ils faisaient venir des jeunes pour. Il y a une formation possible, on te parlera de ce que c'est, viens au job dating, etc. Et donc, c'est là que. Et on est pratiquement à 10%. Je crois qu'on était à 9-8, là. Donc, on a réussi à augmenter sensiblement cette part. Mais on l'a fait aussi en s'intéressant aux personnes qu'on visait. Si on continuait juste à avoir une logique de job qui consistait à dire j'ai publié mon offre d'emploi, maintenant j'attends, ça se passe, ça marche pas.
C'est ça être dans l'innovation.
Exactement, aussi. Exactement.
C'est exactement ça être dans l'innovation.
Exactement.
Et on se rend compte que c'est pas facile.
Non, c'est pas facile.
Il suffit pas de dire ok, on a une annonce, on a les.
Exactement.
Notre département recrutement, là, vous nous pondez une annonce. Non, c'est pas simple.
Un, c'est pas facile et on le fait jamais seul. On n'a pas la capacité, et c'est pour ça que je suis assez dans l'innovation sociale sensible au sujet d'écosystème. Sur notre projet des réfugiés, par exemple, on a travaillé avec Humando, qui est une société d'ADECO, on a travaillé avec les services de l'État, on a travaillé avec différentes sociétés pour nous accompagner, justement, sur les autres aspects. Parce que moi, j'ai des gens qui savent recruter dans mes équipes. Mmh. En innovation sociale, j'ai des gens qui savent aussi tisser des liens avec l'économie sociale et solidaire, créer des écosystèmes. Mais par exemple, j'ai assez peu de spécialistes pour savoir, quand on a un permis de conduire afghan, qu'est-ce qu'on peut en faire pour passer le permis poids lourd.
Okay.
Alors, il faut se rendre compte qu'il y a des services de l'État qui sont pas forcément à Paris, qui sont ailleurs, etc. Donc, il faut se rendre compte que les questions de logement, ça se résout pas simplement. Il y a des gens dont c'est le métier d'accompagner des gens qui n'ont pas de caution, qui viennent d'arriver en France, qui ne savent pas comment trouver un logement. Bon, tout ça, c'est des choses qui se règlent et elles se règlent par écosystème, en fait. Elles se règlent et nous, on a... Et la direction de l'innovation sociale, ce qu'elle fait beaucoup, c'est qu'elle a beaucoup... Elle passe beaucoup de temps à tisser des ponts, à tisser des liens avec l'économie sociale et solidaire pour dire voilà, on a une problématique, on ne sait pas comment la régler, il y a des gens dont c'est le métier, les gens qui sont capables de nous amener les candidatures, d'identifier les jeunes là où ils sont, dans des processus qui sont compliqués. Quand vous avez des réfugiés, c'est pas un processus RH classique. Les gens que vous voyez, ils sont tous passés un jour sous une tente Porte de la Chapelle ou quelque part, et de j'arrive en France, je suis Porte de la Chapelle et je suis dans la rue. Comment j'arrive à un job dating et comment j'arrive à l'emploi. Moi, je ne sais pas les chercher. Mes équipes ne savent pas les chercher.
Évidemment.
Et tous nos outils classiques sont absolument inefficaces pour chercher ce genre de personnes.
C'est ça que je trouve exceptionnel à travers ces échanges. C'est pour ça que j'ai tenu à créer ce podcast. Mais je pense que, voilà, moi, le premier, quand je vais recevoir ma facture d'eau Suez, désormais, je ne vais plus la voir de la même façon. Je vais être content de la payer en sachant qu'il y a tout ça derrière et comment une grosse entreprise qui rayonne à l'international, va également travailler avec le milieu associatif pour aller trouver, en effet, le réfugié qui a travaillé dans de la mécanique, qui est Porte de la Chapelle et qui maîtrise un peu tout ça, pour le ramener dans un circuit classique, servir le business et l'environnement. Et c'est un cercle vertueux qui est extraordinaire. Après, beaucoup, beaucoup d'énergie derrière tout ça.
C'est extrêmement vertueux comme processus. C'est extrêmement vertueux à différents niveaux. Si je reprends l'exemple des l'exemple du pacte. Mm-hmm. On a fait beaucoup aussi à l'époque de stages de troisième. Vous savez que le pacte correspondait aussi à la volonté à l'époque de dire finalement en France, on veut que les élèves de troisième aillent faire des stages dans des entreprises, etc. Et que ça permette de faire découvrir le métier, le monde de l'entreprise, mm-hmm. le monde des métiers oui. aux jeunes. Bon. Sauf qu'on se rendait compte que dans beaucoup de quartiers en France, les jeunes n'avaient pas de stage. Ou alors, finalement, restaient dans leur quartier et les plus chanceux d'entre eux finissaient à faire un stage au CDI de leur collège.
Bon, c'est ça.
Ce qui permettait de les occuper, mais en tout cas pas non, de répondre à l'objectif commun. Ouais. Et du coup, on s'est beaucoup engagé aussi avec les classes de 3e pour leur faire visiter nos installations, pour leur faire visiter nos métiers. On travaillait pas mal avec la fondation TF1 à l'époque qui s'était beaucoup engagée pour avoir des programmes sur lesquels ils prenaient des jeunes quelques jours dans différentes entreprises. Et donc, on a beaucoup fait ça. Et où je veux en venir sur le fait que c'est vertueux, d'abord parce qu'on participe à un projet qui est vertueux, évidemment, pour notre pays et pour les collectivités avec lesquelles on travaille, mais aussi pour nos salariés. C'est-à-dire, nos salariés étaient extrêmement motivés de faire visiter des activités à ces jeunes à travers leur faire visiter des centres de tri, à leur faire visiter des stations d'épuration, à leur faire visiter nos différentes installations. Et quand je dis que c'est pour ça que je fais le lien, on parle souvent d'engagement, on parle de sens. Toutes les actions sociales qu'on peut mener en termes d'innovation sociale, elles ont un impact externe, mais elles ont un impact extrêmement fort en interne.
Bien sûr.
Nos salariés sont extrêmement soucieux, sont extrêmement intéressés, sont extrêmement engagés
et
pour
fiers,
ce type d'action
j'imagine.
Et fiers de leur entreprise. Fiers de leur entreprise. Là, on a lancé cette année une action importante sur le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences, donc, c'est maintenant quelque chose qui s'est pas mal développé, donner à nos salariés la possibilité de réaliser des missions dans des associations sur leur temps de travail. Et on a fait une charte du mécénat de compétences. On l'avait testée sur différentes régions de l'entreprise au cours des dernières années. On a lancé en automne l'année dernière notre charte de mécénat de compétences ouverte à toute la France. Et donc, on a 2 jours pour chacun de nos salariés disponibles pour des actions au service d'associations et donc ouverts à nos 24 000 salariés. Vous voyez, ça fait 50 000 jours à peu près offerts aux associations. Et on a mis tout ça à travers la plateforme Vendredi de façon à ce que les gens puissent en ligne s'inscrire, demander à leur manager et aller passer une journée avec Capital Fille, une journée avec une association qui s'appelle Aquassistance qui fait de l'aide aux pays en situation d'urgence pour le rétablissement de l'eau potable, qui font des actions sociales sur les territoires. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est extrêmement important pour l'engagement des salariés.
Donc moi, je travaille au service recrutement de chez Suez. Je peux aller dans une assoce pour aider à faire des CV, à ce que les gens... c'est ça
Voilà, vous pouvez faire tout type de choses. En fait, vous pouvez faire... Nous, on a l'avantage d'être dans des métiers où vous pouvez faire du très technique. C'est-à-dire, vous pouvez aller, par exemple, on l'a fait récemment, aller participer à travers une association qui est Aquassistance, qui est issue de Suez, qui est une association externe à Suez, mais qui regroupe pas mal de gens chez Suez, aller monter des modules de potabilisation d'eau, qui sont des modules assez simples, mais qui permettent, dans des situations d'urgence ou dans des zones très éloignées, d'aller faire de la potabilisation de l'eau avec quelque chose que vous montez en 48 heures. Et donc, vous pouvez aller vous impliquer là-dedans pour aller préparer, voire même déployer sur le terrain ce type d'installation, mais vous pouvez aller faire du coaching dans des quartiers où vous avez des gens qui sont éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de projet professionnel, vous pouvez aller accompagner des demandeurs d'emploi pour préparer des entretiens, vous pouvez faire tout type d'activité, vous pouvez aller encadrer des associations qui encadrent des jeunes qui sont un peu en déshérence pour les remettre dans l'emploi. Vous pouvez faire quelque chose aussi qu'on a fait d'extrêmement intéressant, je trouve, c'est participer à nos programmes d'incubation, et ce sont nos programmes d'incubation qu'on a lancé là aussi il y a plus d'une dizaine d'années à la demande de collectivités locales pour lesquelles on avait des contrats importants, d'aller incuber, c'est-à-dire d'aller accompagner des demandeurs d'emploi qui ont des projets d'entreprise, de création d'entreprise à vocation sociale ou environnementale, en leur faisant bénéficier de l'ensemble de l'écosystème de l'entreprise, c'est-à-dire des financiers qui viennent leur parler de comment on fait un business plan, des RH qui viennent leur parler de comment on recrute, comment on gère une entreprise, des juristes qui viennent leur parler de comment est-ce que on on dépose des statuts en France d'une société où le développer. Et donc, on a accompagné, là, on en a accompagné 50, je crois, cette année. Ça doit être, maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'on a des promotions chaque année. Ça a commencé à Bordeaux, initialement, avec la collectivité à l'époque, de la volonté de la collectivité qu'on les aide, justement, à aider des demandeurs d'emploi à créer leur projet d'entreprise. Donc voilà, tout ça, vous pouvez le faire en mécénat de compétences. Et nos salariés sont engagés dans ce type d'action et ils trouvent un vrai intérêt, je pense.
Et vous arrivez à... Parce que j'imagine que derrière, enfin moi, si j'étais salarié chez Suez, je serais très fier de ça. Il y aurait un attachement particulier à la marque. Vous arrivez à le mesurer, ça? Ça doit être un peu compliqué, quand même.
Alors ça, c'est pour le... Là, je vais... Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai moins de chiffres sur l'attachement, effectivement. On sait que l'engagement, parce qu'on fait des mesures d'engagement classiques, on sait qu'à travers nos mesures d'engagement, l'engagement de nos salariés, l'attachement à l'entreprise, le fait de recommander Suez comme un bon employeur est élevé. On a des taux élevés d'engagement. Je ne sais pas dire quelle part vient de cette partie-là, mais je pense que ça y participe.
Oui, évidemment, oui. Je pense qu'il y a de ça derrière. Il y a un sujet, il y a une thématique là, qu'on avait évoquée quand on a préparé cet épisode, c'est l'économie circulaire.
Ouais.
Je veux bien qu'on pointe un peu là.
Alors, là, on a des perspectives extrêmement importante dans le domaine notamment du recyclage des déchets et de la valorisation des déchets. On peut citer quelques expérimentations, je vais peut-être en citer deux. Je vais prendre un exemple hors France, pour le coup, à Manchester, dans le Grand Manchester, parce qu'on a des activités de déchets en Angleterre, et peut-être une autre en France, à Montauban, se développe énormément dans le domaine du déchet. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelle la réutilisation, la ressourcerie, la réutilisation des matières pour faire et donner, je dirais, une nouvelle vie aux déchets. C'est beaucoup aujourd'hui de collectivités se sont lancées dans des projets où elles veulent baisser fortement le volume de déchets qui va être traité soit en incinération, soit en enfouissement, donc quelque part disparaître, mais au-delà du recyclage, donner une seconde vie aux déchets. Mmh. Donc il y a, aujourd'hui, par exemple, si c'est le cas à Montauban, un contrat, ce qu'on appelle un contrat de performance, sur lequel on a des engagements de faire baisser les déchets qui sont traités, envoyés en enfouissement, en incinération. Et donc là, ça se passe au niveau de la collecte des déchets et au niveau des déchetteries, sur lesquelles les gens viennent apporter des vieux meubles, des produits, des matières, etc. De plus en plus, aujourd'hui, c'est le cas à Montauban, c'est le cas en Angleterre, à Manchester, je vais en parler dans quelques instants. De plus en plus, dans ces contrats, on nous demande d'installer, coller à ces installations de collecte des déchets ou de tri de déchets, des ressourceries. C'est-à-dire, on sélectionne un certain nombre de matières, on répare dans un certain nombre de cas les matériaux, et puis on les revend, ou alors on les donne à des associations, mais en tout cas, elles sont réutilisées, ces matières. Et ça, c'est là aussi un écosystème qui fonctionne très bien, parce que Suez est titulaire du contrat. La collectivité s'est donné des ambitions importantes dans ce domaine-là et demande à Suez de faire l'ingénierie de ce projet. C'est-à-dire qu'on monte des ressourceries, et ces ressourceries, c'est pas notre métier non plus de les opérer. Donc qu'est-ce qu'on fait? On noue avec les partenaires de l'économie sociale et solidaire sur un territoire des partenariats. Donc on confie en gestion ces ressourceries à des associations pour que ce soit des personnes en insertion, des personnes issues d'associations qui gèrent véritablement ces déchets. Sur le contrat de Manchester, les Britanniques et les Anglais ont une vision assez précise et mesure, on fonde l'impact et de la mesure économique assez forte des revenus générés. Donc vous avez collé aux grandes déchetteries des magasins de second-hand, de ressourceries qui permettent de revendre du matériel, de revendre des choses, souvent avec une dimension sociale, souvent parce qu'elles sont opérées par des gens qui sont sous un statut d'insertion sociale. Et donc il y a aujourd'hui de plus en plus de contrats, notamment en France, en Angleterre, dans d'autres pays qui se développent autour de ça, pour dire finalement la matière, on peut lui donner une deuxième vie. Et soyons doublement vertueux en faisant en sorte que ce processus qui déjà donne une deuxième vie à la matière, elle soit opérée par des gens pour lesquels ça va être aussi une chance professionnelle d'exercer ce métier.
Je trouve ça génial. Je disais dans mon introduction, on va parler ressources au carré, ressources humaines. On parle des ressources, là vous parlez de ressourcerie, j'adore ce terme de ressourcerie. Ouais. Et ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui vont être amenées par des associations, par le milieu associatif, pour venir faire quelque chose de vertueux, d'environnemental, de bon pour la planète, de bon pour ces personnes-là. C'est génialissime. Et là, j'ai une pensée pour ma fille qui me dit, dans l'intro de ce podcast, elle est plus âgée aujourd'hui, mais Papa, quand j'étais DRH, c'est vrai que tu licencies des gens, mais un DRH, ma petite Rose, il fait bien plus que ça. Regarde tout ce qu'il fait, écoute tout ça, et je trouve ça extraordinaire d'entendre et de voir que un DRH, il est à la baguette sur ces sujets-là pour aller travailler avec le milieu associatif. C'est magnifique, c'est sympa quand même comme métier quand on le voit comme ça, non ?
Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est une partie du métier. Moi, j'ai la chance chez Suez que ce soit très connecté avec nos métiers, puisque aujourd'hui, on travaille sur nos activités dans la gestion de l'eau, dans la gestion des déchets avec des collectivités locales, avec des clients publics, beaucoup, pas uniquement, mais avec des clients publics qui ont toujours le soin aujourd'hui d'avoir une empreinte positive de ces activités sur leur territoire. Et c'est là que le social rejoint l'environnemental. C'est doublement vertueux quand on peut faire des choses qui ont un impact environnemental évidemment positif, mais en plus à travers l'intégration sur un territoire de personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont des personnes pour lesquelles des solutions classiques ne fonctionnent pas forcément, des emplois très classiques dans nos entreprises sont moins accessibles, et on peut même pousser l'exemple, je vous en parlais, on peut pousser l'exemple un peu plus loin encore, et là aussi c'est vertueux pour les processus écologiques. On travaillait, alors aujourd'hui on travaille dans probablement une vingtaine de villes avec eux, mais à l'origine à Bordeaux aussi on a lancé une initiative, ça doit faire... Je pense qu'on a plus d'une dizaine d'années de partenariat. On a un partenariat national avec eux. On travaille avec une société, une association qui s'appelle Tapage. Cette association Tapage, elle est issue d'une idée canadienne apportée en France il y a peut-être une quinzaine d'années. Nous, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux. Et ils réconcilient parfaitement ce qu'on vient d'évoquer, mais de façon encore plus, peut-être encore plus poussée. Ils salarient des gens à l'heure. Qui sont des populations qui sont souvent en déshérence, souvent des jeunes, souvent des gens qui ont des problèmes d'addiction ou des problèmes de des gens parfois que vous pouvez voir dans des gares, dans des squares, dans des parcs publics, etc. qui font la manche, qui parfois peuvent donner une impression d'insécurité réelle ou supposée, mais en tout cas souvent dans le tissu urbain pour des élus, c'est important d'essayer de lutter contre cette impression d'insécurité qui existe et qui sont des gens qui est, je dirais, la part du marché de l'emploi que vous n'adresserez jamais en tant que DRH. Ils lisent pas les offres d'emploi. Et puis, de toute façon, si vous vouliez leur proposer même un contrat, 35 heures de travail c'est quand vous habitez dans la rue, c'est pas possible. C'est impossible, ce sera un échec. Et donc, c'est souvent cette frange de gens dont on dit que vous savez, quand on dit que le plein emploi est à 5%, on se dit toujours, ah tiens, ça fait quand même 5% qui reste.
Qu'est-ce qui fait que... Voilà, donc, ils en font partie.
Voilà, ils en font partie, clairement. Et Tapage, ce qu'ils font, c'est qu'ils les sortent de la rue et ils les salarient à l'heure, il les paye directement, alors tout est évidemment officiellement déclaré, les fiches de paye, etc., mais enfin, il les paye au compte-gouttes quand même à l'heure pour que leur travail soit immédiatement rétribué, et ils leur font faire tout type d'activité. Pour nous, ils font faire ce qu'on appelle de la collecte à pied, c'est-à-dire d'aller ramasser des déchets, d'aller faire de la propreté dans des villes, ramasser des cartons, ramasser des choses sur lesquelles vous n'avez pas de modèle économique classique pour le faire. C'est-à-dire, on a des camions, on a des processus de collecte, mais les processus de collecte, c'est les bacs, c'est des points d'apport volontaires comme des déchetteries. Ça consiste pas à avoir une personne qui va ramasser un carton. C'est pas un processus classique, en tout cas. Mais enfin, pourtant, les cartons, ils sont là. Matières sont là. Elles pourraient être recyclées. Ça contribue aussi à l'amélioration de la propreté d'une ville. Et ensuite, c'est des matières qui échappent à tout processus de recyclage. Bon, ils font ça et on leur confie des activités de ce type-là pour aller faire cette espèce de dernier... C'est souvent, on dit dans la collecte que c'est le dernier kilomètre, finalement les derniers 100 mètres qui sont compliqués.
Exactement.
Parce que c'est là où vos camions ne vont pas, c'est là où vous n'avez pas la taille critique, c'est là où vous n'avez pas la capacité à collecter ce qu'il faudrait collecter pour avoir des processus de recyclage. Donc voilà, on fait ça avec eux dans une dizaine de villes. Et là, pour le coup, on est vraiment dans le fait de confier des tâches à des personnes qui progressivement, à force de travailler heure par heure en plus en plus, pourront retrouver un rythme de travail plus important.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Et vraiment, c'est quelque chose que eux savent faire, qu'on ne sait pas faire nous, mais pour le coup, eux, de la même façon, c'est pour ça que je parlais d'un équilibre, eux, pour fonctionner, ils ont besoin d'entreprises qui leur donnent des contrats. Et nous, on a besoin d'avoir des gens qui savent adresser ces populations-là pour compléter notre offre. Et donc ça, c'est des choses qui fonctionnent bien et c'est des choses qui sont vertueuses.
C'est la complémentarité importante entre, en effet, Suez, la grosse structure avec les moyens, les idées, et puis des associations comme Tapage qui vont faire du bien aussi au quotidien à des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Et là aussi, comme on le disait tout à l'heure, c'est un peu un sas.
Exactement.
Pour leur permettre de revenir petit à petit, en récupérer, si voilà, ils arrivent à en récupérer quelques-uns et à les remettre dans un cycle, on va dire, entre guillemets, classique.
Exactement. Et c'est aussi, je trouve leur modèle extrêmement intéressant, parce que c'est aussi une protection contre l'échec, y compris de l'échec des bonnes intentions. Si vous voulez aller chercher des gens qui sont très éloignés de l'emploi et que vous leur dites c'est formidable, demain tu commences à telle heure, c'est tous les jours et c'est 35 heures.
Ça marchera pas.
Au bout de 3 jours, il est plus là. Et vous allez vous dire, bah tiens, c'est bizarre, on donne de l'emploi aux gens, ils peuvent pas le prendre. Oui, mais parce que il y a un certain nombre d'étapes nécessaires sur un certain nombre de métiers et ces associations font ça aussi. Je pense qu'ils contribuent aussi à cet objectif de plein emploi.
Évidemment qu'ils y contribuent et puis c'est vertueux, donc formidable. J'ai vraiment adoré tous ces échanges qu'on a pu avoir, Laurent Guillaume. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux sur ce que vous pouvez faire au quotidien. On va terminer avec les trois questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. La première, le ou les conseils que, avec le recul, vous pouvez donner à une personne qui travaille dans les ressources humaines ou qui voudrait y travailler. Quel conseil vous avez à donner à ces personnes-là ?
Écoutez, c'est des métiers où on a parfois des postures, où on a l'impression d'imposer des règles, d'imposer un certain nombre de choses. On gagne beaucoup dans ce métier à écouter les gens, toutes les personnes dans l'entreprise à tous les niveaux, écouter beaucoup, se nourrir, prendre la température régulière de son entreprise, aller sur le terrain, écouter des salariés à tous les niveaux pour essayer que son action justement soit la plus juste, la plus pertinente, la plus équilibrée possible, et puis être en permanence dans cette recherche d'équilibre que j'évoquais. On est évidemment au service de l'entreprise, on défend les intérêts de l'entreprise, on est payé par l'entreprise, on fait souvent partie d'une équipe de direction, on représente la direction générale de l'entreprise, mais pour assurer la pérennité de l'entreprise, on est là pour trouver des points d'équilibre.
Ok, vous qui aimez lire, allez, est-ce que vous avez un conseil ou un ou deux conseils de lecture à nous donner ?
Un conseil de lecture, le dernier prix Goncourt que j'ai adoré, qui s'appelle Prendre soin d'elle. Je suis absolument confus de ne pas me souvenir
On va le retrouver.
Ça parle de Renaissance italienne et ça parle du travail aussi à travers le travail d'un sculpteur. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié.
Parfait. Dernière question, est-ce que vous auriez une personne à me recommander pour un prochain épisode autour des ressources humaines ou du management ?
Autour des ressources humaines ou du management. Alors, je sais que vous posez cette question traditionnellement et je ne m'y suis pas du tout préparé.
C'est pas grave.
Donc, je vous promets de vous donner cette réponse-là, mais là, pas tout de suite.
Eh ben, pas de souci.
Merci.
Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous nous avez donné comme conseil et comme image sur l'innovation sociale. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de 13e mois. S'il vous a été utile, partagez-le à votre entourage RH pour qu'il les aide à leur tour. Et puisqu'on y est, mettez une note 5 étoiles et un petit commentaire pour que ce podcast puisse profiter à un maximum d'acteurs de la communauté RH. Pour recevoir encore plus de ressources sur le secteur des RH, c'est simple, abonnez-vous à ma newsletter. Le lien est en description de l'épisode. Et pour finir, si vous avez des besoins en recrutement ou en coaching, la Manufacture RH se fera un plaisir de vous accompagner. Il vous suffit de me contacter directement sur LinkedIn. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.